make it. My girl,
babies.
What me want you do?
Tick 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 tock. 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 Tick tick tock.
Yo, what me say me do?
Tock 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 tick.
Hey, babies.
Tock tock tick. Tock tock tick. Tock 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 tick. Tock 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 tick. Tick.
On commence quand vous voulez.
Bienvenue dans Cinématoque, Cinématoque ouvert même l'été, qui accueille aujourd'hui la réalisatrice congolaise Monique Mbeka Foba, invitée d'honneur du festival AfriClap. Elle y présente son moyen-métrage Sœur Oyo lors de la soirée d'inauguration du festival, le mercredi 31 août à l'Espace des Diversités. On va donc discuter avec elle de cinéma et puis au cours de l'émission, Stéphanie s'invitera pour nous raconter son film de chevet comme d'habitude. Et pour débuter, pour laisser mon invité s'installer tranquillement, on va écouter Simaro Massilla avec ce morceau, Le Testament.
Oh Nzambe, au salabo mouiwa moto, motoroya okuta na malade, mondelepe a sali kisi, komoto abika. Vraiment ce que zra ki pona mbongo, ndebo oule a koufite, ko fami a sali nyonso. Nzambe, ponanini liwa, ah, somo, nandima kite.
Testament, baneko na kotanga na kozongelai, maloba ya boule, baninga na kotanga na kolelai, nazangi na mokilio, bafami bosali ngai mabe, masia na sarafiele wapio mokili esili singa lolendo lelo nandimi. Baneko na kotanga na kozongelai Maloba ya boule Baninga na kotanga na kolelai Nazangi na mokilio Bine mibole singa poison Luambo na salafiele wapio Mokilie siri singa lolendo Lelo nandimi Waya boule, sangolo kola kake na matoye Epe singa liboma, nazangi likambonga na sala Mbongwe loko pamba, eko kiko somba liwate Ya bongo leo, lobi na pasi otali nga oseki Opeke singa ikolela, eka sola kaki nga okobika Zoko yeba toza liko kende, oko singa neko kosa Na keikola la yokati motema Atali loba suka, jose ome chante o mama Talinga oleli, obomeringa sekeleo, kaso yeba kyoko kufa, olobinanga na keneko lalai, oko singa neko kosa, simananga yo katimo tema, olinga kina zalateo, jose yo me chante mama. Ya jose yo, mbohule osalinga imabe, nga imatiye, Na soma neko na moka ninyo Baninga nyo somo tona neko na ye Jose osili singa lolendo e Na lala wapio mama Zela ya Bruxelles Paris na Rome bako tunangai Na kozange yanu Miloba ninyo tiki na ye bisabango Ngai maina miso e Jose Olate kitoko epe usalisi peti ya monene Sima ya mwango ngobengi nga pembe nye Ola kisinga ndebana kasio boy kotala nga ina miso Ule nanga usili kinzuka ndoto ya moku ya mama Yabo ule o mardina mito ya mbinga na koseka Yola mpasi ya liwa kasolinga kinga na yebateo Olobina nga oyo kimwanzalai Nala mela yo pepe suko na keiko la masimo kati motema Olinga kina zalate oliwe yo kinga soni mama Mbo ule nanga ye butuwa na kutuna na na kiteo ma mwa ma kolela esu ke komi kotelema si mwa mwa ngonga babeti na koi na kembango kofungola na muni fami mobimba ba kolela ule nanga ufibu ule ukosinga ye mama ule nanga ye butu wana kutu na lala kiteo manoto mabeo Pongi na komi kokanga sima mwanga nga babeti na koi na kembangu kofungola na kutifa mimo bimba bakolela bubule na ngao kufi bubule upo ibiso ye mama ya bubule o mardi na midyo ya minga na koseka yona pasi ya liwa kasolinga kinga na ye bateo olobi na ngao yo kimwanzalai Nalombela yo pepe suku na keikola masimo kati motema Olinga kina nzala teo jozo yo kinga soni mama Malu ya lumambe na bongole botiki suza na kolela Azangi baka marade moziki sankilo balatinde moku Yaliweza linzela ya moto nyoswe Binobo weli kokende mboka boke ibisoto yebiteo Bobombela biso esika mokolo toko ya o maluna bowole o Mamama ya fekosa ye likamboli zwinga li lekimonene Bami ya matonge likamboli zwinga li pesinga li bomai Moziki sankilo ye likamboli zwinga li lekinga nzoto Kusala emalu sanso ye likamboli zwinga li komisinga zoba Ngama oze mwana ntuka na kota sankilo li kolona yoyo Na komi komi tuna eso kina seya li wato kokutanaka Espe na komo na boule li susu Atikili lobate o Jose waba santo mama
Voilà, je suis désolée, je suis obligée de couper le testament. Alors, ce soir, ça sera, c'est pas pour rien, mais on en reparlera plus tard, tout à l'heure. J'accueille Monique Mbeka Poba. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Je vous présente, fille de diplomate, vous grandissez principalement en Belgique. Le Congo, c'est à l'occasion des vacances scolaires. Vous étudiez à l'Université libre de Bruxelles. Vous êtes investie activement à Radio Campus, radio pour laquelle vous réalisez de nombreux reportages. Après une licence en sciences commerciales et internationales à l'Institut d'études supérieures de Saint-Luc à Bruxelles, vous faites un stage d'initiation à la vidéo documentaire aux ateliers Varan à Paris, ces fameux ateliers créés par Jean Rouche. Et c'est parti. 91, premier documentaire avec Fred Mongou, journaliste de la télévision nationale zaïroise, revue en vrac, regard sur la naissance de la presse indépendante au Congo. Suivront plusieurs documentaires qui ont toujours un lien avec l'Afrique. Vous vivez d'ailleurs au Bénin plusieurs années et vous travaillez pour la télévision béninoise. 93 rentrées avec un point d'interrogation qui questionne la fuite des cerveaux. Deux petits tours et puis s'en vont, c'est en 97 sur les élections présidentielles au Bénin. Avec un rêve d'indépendance, en 98, vous partez sur les traces d'un grand-père, assistant médical, devenu médecin. Et par ce biais familial, vous dressez un autre portrait, celui du Congo, après 37 ans d'indépendance. C'est votre première intrusion officielle dans la mémoire familiale, en documentaire donc. Puis vient le portrait d'une jeune fille, Anna l'Enchantée. Donc cette jeune fille de 17 ans, fraîchement débarquée du Bénin, apprend le chant au conservatoire en France. Et on va voir que le chant, on va le retrouver aussi dans Saroyo. De retour au pays, elle subit, en France, elle se retrouve seule. De retour au pays, elle subit le nouveau regard de sa fratrie, pas forcément tendre. Se pose alors une douloureuse question, doit-elle retourner en France ? 2004, sorcière, la vie, une réflexion sur la sorcellerie comme une expression culturelle ancienne aux prises avec la modernité. En 2007, entre la coupe et l'élection, un documentaire dans le cadre d'un atelier, c'est ça ?
Oui, ça je voudrais quand même m'exprimer parce que c'était pour moi l'occasion d'aller au Congo pour la première fois, avoir un travail de collaboration avec des jeunes par rapport à leur propre projet. Et c'est donc un des projets de l'atelier parce qu'il y avait 10 10 projets. Je leur ai dit, écoutez, c'est vrai qu'on a travaillé sur vos projets, mais a priori, vous aurez beaucoup de mal à les réaliser. Je propose qu'on concentre tous nos énergies sur un seul des projets. Et c'était donc un projet sur la première équipe d'Afrique noire qui a été à une Coupe du Monde de football. Et c'était l'équipe du Zaïre en 74. Oui. Et elle n'a pas brillé, parce que je crois que c'est ce qui est marqué dans votre résumé. En fait, elle a vraiment subi une grosse catastrophe. Elle a été battue 9-0 par la Yougoslavie parce qu'ils avaient décidé de faire grève. Et du coup, on a oublié cette équipe alors qu'elle a fait une bêtise. Elle a décidé de faire grève parce qu'on avait volé ses primes de match. Et du coup, elle a disparu un peu dans une poche de l'histoire de façon malheureusement précoce.
Et ça a été d'ailleurs assez difficile de la faire sortir de ces oubliettes.
Oui, tout à fait. Ils voulaient plus s'exprimer parce que c'était le drame de leur vie, cette bêtise. Et puis finalement, ils ont parlé parce que c'était une équipe de jeunes qui venaient les interviewer, que ça les a émus. Uh-huh.
Voilà. Et puis ensuite,
pour finir,
la fiction dans laquelle vous revisitez la figure de votre mère ou de votre grand-mère, c'est Sœur Oyo, l'histoire d'une petite fille qui rentre dans une école française, à reculons, faut dire.
Francophone.
Oui, d'une école francophone.
Parce qu'il y a les Belges francophones et il y a les Belges néerlandophones.
Oui, voilà. Et très vite, elle devient la risée de ses camarades. Et quand même, il y a cette présence de sœur Astrid et à laquelle elle s'attache. Et on va la suivre dans ce tiraillement. Au sujet de l'écriture de la fiction, je vous ai entendu dire que c'était plus facile à écrire qu'un documentaire. Vous confirmez ?
Non, je ne sais plus si j'ai vraiment dit ça, mais je dirais qu'au niveau de... Au niveau du documentaire, ce qu'il y a à faire, c'est qu'on doit réellement entrer en empathie avec un univers, avec des gens, avec un lieu. Si vous avez pas accès à ça, c'est pas la peine de faire le film. Ouais. C'est fermé d'office. Par contre, un documentaire, au niveau économique, c'est plus léger financièrement à mettre en œuvre, donc c'est plus accessible, on va dire. Mais la difficulté, c'est ça. La difficulté, c'est que vous devez être dans une sincérité absolue par rapport à vos interlocuteurs, parce que tout ce qui est franchise et sincérité, de toute façon, ça se sent, que vous ayez affaire à quelqu'un dans un village qui n'a jamais mis les pieds à l'école ou à un grand intellectuel, c'est des gens qui veulent savoir à qui ils ont affaire pour délivrer leur histoire, leur intimité. Ils ne vont pas le faire comme ça pour vos beaux yeux, ils veulent savoir si en face d'eux, il y a quelqu'un qui le mérite. Et donc ça, vous êtes confronté à vous-même beaucoup plus, enfin, selon moi. Dans un documentaire, ça vous met vraiment en déséquilibre quelque part, ça vous met en insécurité. Tandis que dans une fiction, finalement, les choses, vous les cadrez à la base, au départ, beaucoup plus facilement parce que c'est vous qui décidez. Oui, oui, oui. Les acteurs vous obéissent, les techniciens vous obéissent, enfin en principe. Parce qu'effectivement, il y a des équipes qui peuvent se rebeller contre leur réalisateur ou réalisatrice. Je l'ai quand même un peu vécu. Mais voilà, si vous avez les choses en main. En documentaire, vous avez juste la liberté de décider que rien n'est décidable, on va dire ça.
Et vous portez une sorte de... Enfin, vous avez une responsabilité puisqu'on vous donne une parole aussi. Ou vous le sentez... Ou ça, vous...
Ah, moi, je suis extrêmement consciente de ça. Et c'est ce que j'ai certainement le plus reçu comme héritage de la part de cette formation aux ateliers Varan de Jean Rouche. Aux ateliers Varan, ce que je garde comme enseignement, c'est vous êtes deux dans ce film, le filmant et le filmé. Il n'y a pas que le filmé, il ne faut pas croire ça. Vous aussi, vous êtes partie de ce film. Et tant que vous respectez ce rapport-là, c'est-à-dire que vous n'êtes pas la personne qui sait tout et qui a droit à tout, et les gens doivent juste être très reconnaissants qu'on daigne les filmer, vous êtes aussi partie prenante de ce rapport et en égale responsabilité du résultat.
Mmh. Oui, c'est important.
Oui, c'est très important parce que c'est un pacte de respect.
Ouais. Alors justement, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous étiez attirée par le documentaire, comment vous vous êtes retrouvée aux ateliers Varan ?
Mais écoutez, d'abord parce que j'ai vécu en Belgique les trois quarts de ma vie, on va dire, et que la Belgique est un pays du documentaire. Si on regarde l'histoire du documentaire, Henri Storck, des gens comme ça. Et quand j'étais plus jeune, dans les années 80, on regardait des documentaires en heure de prime time, juste après le journal télévisé.
Oui, et ça c'était... fait un peu rêver ça. Parce que...
Ah oui, bon, mais c'est plus le cas maintenant en Belgique. Ce que je regrette, forcément beaucoup, parce qu'on copie maintenant les Starac et télé-réalité et autres. Mais à l'époque, bon, il y avait pendant la semaine trois grands rendez-vous de documentaires. Striptease, que vous connaissez ici, L'écran témoin, enfin j'oublie un peu les autres parce que ça fait il y a longtemps, mais je regardais tout le temps du documentaire et je trouvais ça normal d'en regarder. Et pour moi, c'était pareil que les autres, que des films. Hein. Et donc, imprégnée de cette culture, quand je suis tombée en relation avec ces gens qui formaient au documentaire et qui m'ont dit, écoute, tu fais de la radio libre, parce que j'ai fait de la radio libre, effectivement, à la radio de l'Université libre de Bruxelles. Ils m'ont dit, bah, écoute, tu as vraiment toutes les opportunités pour entrer dans cet univers du documentaire très facilement, puisque tu as l'habitude d'interviewer et de les mettre les gens à l'aise devant un micro. Or, mettre les gens à l'aise devant le micro, c'est un peu similaire que de les mettre à l'aise devant une caméra. Parce qu'on a aussi, très peur devant un micro quand on n'a jamais été interviewé de sa vie. Hein. Ça, je crois que je ne vous apprends rien.
Ouais, ça peut provoquer effectivement une timidité, une angoisse même.
Une certaine tétanie,
ouais.
Même,
oui,
tout
c'est
à fait.
Vrai, c'est vrai. Ouais.
Ah oui, je vais vous faire une petite anecdote. La première fois que j'ai dû faire un reportage pour mon émission Radio Campus sous la Brapalabre, qu'on m'a dit, écoute, tu vas faire un reportage sur le festival du film arabe de Bruxelles. Donc je suis allée, j'ai regardé tous les films pendant 7 jours, je vais faire un résumé de ce que j'ai fait très correctement, j'avais besoin que de le lire. J'ai ouvert la porte, aucun mot n'est sorti. Je suis restée comme ça.
Le blanc.
Voilà. C'est ça que j'appelle vraiment la tétanie. Mmh. Et je m'en suis toujours souvenue. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont peur et je me mets à leur place parce que j'ai vécu ça.
Oui. Donc, quand vous tendez votre caméra ou votre micro, quand vous vous dirigez vers les personnes qui seront dans votre film, vous pensez à ça?
Oui, je pense à ça. Maintenant, je sais parler sans problème, mais j'ai connu le moment où aucun mot n'est sorti de ma gorge. Et donc c'est vrai que sortant de tout ça, de cet univers de documentaire belge, et puis j'ai cette proposition de faire les ateliers Varan, ben j'étais comme un poisson dans l'eau. Et j'ai pas eu beaucoup de soucis malgré que j'ai pas fait d'école de cinéma et que ces ateliers Varan au demeurant ne durent que 3 mois. Ouais. Et malgré que ce n'était que 3 mois, en fait, ces 3 mois ont été le démarrage de ma carrière de cinéaste.
Et alors, ça a été facile de commencer à faire du documentaire quand on est une femme africaine? Dans un milieu quand même déjà représenté plutôt par des hommes, est-ce que vous avez senti qu'il y avait une place à prendre? Il a fallu se battre?
Bon, je vais vous dire une chose que je dis régulièrement, c'est que sur tous les Oscars qu'il y a eu et qui ont été gagnés depuis la création des Oscars, il y a une seule femme. Il y a une seule femme qui a gagné les Oscars aux États-Unis. Alors, c'est une difficulté pour les réalisatrices, ajoutez pas africaine.
Ouais. Ouais.
Pour les réalisatrices. Les femmes dans ce milieu ont énormément de mal. Et d'ailleurs, il y a un festival de films de femmes à Bruxelles qui a fait des statistiques. Et sur les statistiques, il est noté que dans les écoles de cinéma en Belgique, il sort 65% de femmes. Et par rapport aux projets qui sont déposés, même pas aux projets qui sont réalisés, mais aux projets qui sont déposés aux différents guichets de financement, il y a 16% de femmes. Donc, vous voyez un peu le déséquilibre.
C'est sûr.
Donc, on ne parle pas de réalisatrice africaine là-dedans. Là, je vous parle de réalisatrice belge. Voilà, il y a un gros souci en général.
Ouais.
Et donc, je voulais faire des films. J'avais chaque fois des projets qui presque me tombaient sur les épaules et étaient obligatoirement, m'obligeaient pratiquement à les réaliser. À la limite, je me demande si je décidais d'en faire. Hein. C'était presque chaque fois... c'était
une réaction.
C'était une impossibilité de ne pas les faire. Donc je commençais pas à me dire je suis une femme, je suis noire et c'est pas possible. Non. Je me disais, et là justement, quand j'ai fini les ateliers Varan, en fait, j'étais pas bonne, j'étais pas une des meilleures élèves. Et je suis souvent comme ça, je commence toujours très très bas. Je suis toujours la pire, la zéro, la dernière de classe. Et c'est une très bonne place. Parce que quand on est dans des places comme ça, on est obligé de progresser. Tandis que quand vous finissez, que vous êtes premier de classe, vous, quelque part, vous plafonnez.
Oui,
voilà.
Oui.
Donc, après ces ateliers Varan, j'étais le film. Bon, voilà, je voyais les autres qui faisaient des grands films. Et puis, on disait, ces films, ils vont aller dans des festivals, ils vont avoir des prix. Ils avaient des félicitations. Et puis moi, bon, on avait un petit regard un petit peu condescendant. Oui, le film de Monique, oui, c'était sympathique son film. C'était une histoire, c'était le portrait d'une professeure de danse africaine. À Paris, c'était ça mon sujet. Et bref, je m'étais dit, bon, voilà, moi j'ai, parce que j'avais une excellente monteuse qui avait monté mon film, qui m'avait dit, écoute, ton sujet, il est pas si mal, mais voilà, il y a ça et ça et ça qui aurait, que t'aurais dû faire ou pu faire, ou voilà. Et donc, je savais ce que j'avais pas tout à fait réussi, et je me disais, il faut que j'en fasse vite un autre, pour appliquer ce que je viens d'apprendre, parce que sinon j'ai oublié. 3 mois, c'est pas assez long pour qu'on se souvienne longtemps, quoi. Et donc il faut absolument que j'applique tout de suite ce que je suis en train d'apprendre. Et donc il y avait au Congo à l'époque, parce que je vous parle des années 90, eh ben en 90 il y a eu un discours de Mobutu, président de l'époque, qui disait, eh ben c'est le multipartisme, ça c'est la liberté d'expression, le pays change, parce qu'il y avait le discours de la Baule avec Mitterrand qui disait ouais, il faut que les pays africains se démocratisent, enfin tous, ils avaient peur de perdre leur soutien occidental, etc. Donc bref, tout le monde commençait à avoir peur de perdre, et puis ils arrangeaient leur situation politique, et donc il y avait ça. Et tout à coup, au Congo, enfin, ça c'était le Zaïre, à ce moment-là, il y avait une effervescence, les gens étaient fous de joie, ils se disaient, la vie change, s'ils avaient su, n'est-ce pas? Et donc, bref, moi je me disais, je viens d'apprendre à tenir une caméra, s'il y a quelque chose à faire, c'est aller au Congo, au Zaïre, filmer tout ça. C'est là où je vous dis que j'ai pas décidé, il y a un truc qui devait être filmé. Parce qu'effectivement, c'est un film qui est très nostalgique quand on le regarde aujourd'hui. C'est toute cette joie, toute cet espoir, toute cette, les gens, ils étaient 30 centimètres au-dessus du sol. Hein. Ah oui, à partir d'aujourd'hui, vous savez, ce pays, ça ira très, 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 très bien. Donc c'est assez dur à regarder aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était mignon, quoi. Et je suis allée là-bas et j'étais d'une inconscience totale. Parce qu'en fait, quand je suis allée là, et que j'étais là avec ma petite caméra, en fait, maintenant tout le monde filme, hein, il suffit de sortir son portable, on filme. Mais à l'époque, il n'y avait que des caméras du pouvoir, hein, il n'y avait que ces caméras-là, hein, de télévision du pouvoir. Et s'il y en avait d'autres, c'est-à-dire si vous n'étiez pas identifié comme quelqu'un du pouvoir, vous n'étiez que de l'opposition. Et donc vous étiez quelqu'un de dangereux.
Sans méfier, oui.
Il fallait s'en méfier. Puis alors moi, j'étais là, je filmais à gauche, à droite. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit, mais Monique, est-ce que tu sais que tu as des services secrets au cul qui demandent, qui posent des questions à ton propos pour savoir qui tu es? On te voit te balader avec une caméra. On ne sait pas qui tu es. On ne sait pas qui t'a engagé. Enfin, on se demande si ce n'est pas service secret américain, service secret, je ne sais pas quoi. Je dis, je ne suis rien de tout ça, moi. Donc, j'ai vite filé. Parce qu'effectivement, j'avais des images un peu compromettantes.
Mais comme quoi, vous étiez là au bon endroit.
Au bon moment, au bon endroit.
Au bon moment, au bon endroit, oui. Et on suivit beaucoup de documentaires et pas de projets de fiction. Et est-ce que Sœur Oyo, comme ça, s'est imposé pareil, de la même façon qu'un documentaire? Est-ce que ce sujet, il est venu à vous?
Mais oui, parce qu'en fait, si j'ai commencé à faire des films, ça faut peut-être remonter à ça, c'est que quand j'étais petite fille, à 11 ans, mon grand-père a eu son diplôme de médecin. Et mon grand-père est un monsieur qui a eu 12 enfants. Donc vous imaginez bien que... Moi, j'ai des tantes qui ont mon âge. Que chargé d'enfants comme il était...
Oui. Il était toujours en formation quand vous étiez petite. Il était...
Je vous dis, à 11 ans, il a eu son diplôme qu'il a poursuivi pendant des années. Et je croyais que c'était normal. Parce que bon, toute ma vie, toute mon enfance, il était étudiant. Et mon père, dès qu'on disait, oh, papa, c'est difficile, on ne comprend pas l'école, ceci, cela. Il avait la réponse qui était... Votre vieux grand-père est à l'université. Il étudie des choses très difficiles. Il a un vieux cerveau. Mais lui, il réussit. Et vous, avec votre jeune cerveau et tout, vous vous plaignez. Alors, on fermait la bouche. Hein. C'était vraiment l'argument. Ah oui, on va pas se plaindre alors que grand-papa qui est vieux, il étudie. Alors nous aussi, on doit savoir étudier correctement. Et du coup, on était tous obligés d'être excellents à l'école. Enfin, ça, il m'a mis une pression, le grand-père, tu vois. Et donc, un jour, à 18 ans, je m'aperçois que c'est bizarre d'avoir un grand-père étudiant. Je dis, bon, oui, comment ça se fait que j'ai un grand-père étudiant? C'est vrai que dans la famille, ça a l'air normal, mais quand tu dis ça aux amis à l'école, ils sont tous... Il y a quelque chose de bizarre. Donc, je pose des questions. Oh, Monique, c'est des histoires, tu sais, des vieilles histoires, t'occupes pas. Je t'occupe pas, mais pourquoi on me raconte pas? Ah, pourquoi on me raconte? Pourquoi on veut pas me faire comprendre cette histoire qui a l'air bizarre? Et c'est le jour où je suis venue avec une caméra qu'on m'a racontée. C'est-à-dire la caméra, elle débloque.
Avant, on me disait, non, c'est des histoires pas intéressantes, tu vis en Europe. C'est très bien, tu sais, l'histoire de l'époque, il faut oublier tout ça, c'est pas intéressant. Mais je dis, c'est intéressant. Et alors, avec la caméra, j'ai commencé à faire tout ce travail de recherche. Et je me suis rendu compte que si mon grand-père était étudiant à l'âge où normalement on est à la retraite, c'est parce qu'il y avait eu la colonisation. Et que pendant la colonisation, les Noirs, on leur interdisait d'étudier. Alors ça, c'était une première petite piste. Ah, les Noirs, on interdit d'étudier. Pourquoi ? Parce que quand tu résous un pourquoi, il y a le pourquoi derrière, le pourquoi après, le pourquoi après. Et donc, en fait, c'est pas que j'ai voulu me spécialiser dans la colonisation. Il y avait une histoire dans ma famille qui était bizarre, c'est tout. Moi, je n'avais pas besoin d'être experte de quelque chose.
C'était là.
C'était juste là, c'était dans mon histoire. Et je voulais, et j'étais obligée de savoir pourquoi on ne voulait pas me dire. Parce qu'en fait, si on ne veut pas me dire, si on ne me raconte pas, c'est qu'on ne veut pas me raconter. Et on ne veut pas me raconter pourquoi. Parce que la colonisation, c'est une période de honte, aussi bien pour les Noirs que pour les Blancs. Les Noirs ont honte, les Blancs ont honte. Et puis tout le monde te dit, tout ça c'est fini, c'est passé, t'occupe pas. Sauf que non, sauf que la colonisation, elle est toujours là, et toujours parmi nous. C'est fou de dire t'occupe pas, il faut s'en occuper. Et à un moment donné, tu ne peux pas avoir de témoins parce qu'ils sont en train de mourir. Ils sont tous en train de mourir. Ma mère, à la fin de la colonisation, elle a 15 ans. Donc c'est une gamine. Tu peux difficilement poser des questions approfondies à une gamine, même si elle a toujours des réponses intéressantes. Il ne faut pas croire hein, ce que je montre dans ce royau. Les jeunes et les enfants regardent, pensent, réfléchissent aussi. Moi, c'est parce que je me suis posé la question à 11 ans par rapport à mon grand-père que je suis où j'en suis. Donc c'est, les enfants ont beaucoup de choses à dire. Mais bon, en attendant, voilà, ceux qui ont vraiment été au cœur de cette période coloniale, ils sont tous morts. Donc, mais comme j'ai posé des questions dans mes documentaires, il y a des choses que j'ai mises dans les films, et des choses qui sont off-record, c'est-à-dire que je connais, mais que j'ai pas mis dans mes films. Et à un moment donné, je me dis, mais merde, Monique, pourquoi t'as pas mis ça dans le film ? Oui, mais c'était pas le sujet à ce moment-là, ou parce que j'avais pas les connaissances que j'avais à ce moment-là. Donc, j'ai entassé des tas de choses que je ne peux plus faire redire aux gens parce qu'ils sont morts, mais par contre, je peux les mettre dans des
fictions.
Ah, il y a une logique à tout, hein.
Oui, oui. Eh bien, tout de suite, on va écouter un petit extrait de cette fiction, donc Sœur Ouillot, et puis on en parle juste après.
Je t'en prie.
Sœur Astrid, Sœur Latin.
Oui, mais n'ayez pas peur, hein. Je vous apprendrai les paroles. Ah, il y a une chose très importante. Il faut qu'on choisisse une soliste. Elle chantera seule les couplettes et alors vous chanterez ensemble les refrains.
Je veux être la soliste, je veux être la soliste.
C'est la meilleure qui sera choisie. Donc, canticorum jubilo.
Être mon ami. Jubilo.
Voilà, donc c'était un extrait de Sœur Ouyo. Le décor est posé, hein, Congo, années 50. Godlieve ne sera pas une villageoise, déclare son père. Et on l'envoie au pensionnat de sœurs qui enseigne donc en français. Et ça commence par une coupe de cheveux, puisqu'on rentre au pensionnat et on rase la tête, quoi. Et là, Godlieve, elle fait quand même la grimace, même si elle se laisse faire. Et du coup, tout ça, cette petite fille va vraiment tout le temps être entre ce monde qu'elle découvre et qui lui est hostile, et de la violence, donc déjà de la coupe de cheveux, plus les petites camarades qui la traitent d'abrutie, et puis ce monde aussi qu'elle va découvrir auprès de sœur Astrid. Et donc, on est toujours, certainement comme cette petite fille, entre un univers violent, pour commencer, et en même temps, il y a cette découverte des yeux d'enfant. Et nous aussi, en tant que spectateurs, on est tiraillés, comme Godlieve. C'était votre volonté ?
Oui, parce que bon, c'est une petite fille qui, j'espère, on le sent dans le film, a comme passion cardinale dans sa vie, comme dans celle de beaucoup de petites filles, sa grand-mère. C'est une personne chez qui on va en vacances. Bon, ici, en France, ça sera, on va chez la grand-mère, elle fait des gâteaux, elle raconte des histoires, elle est pas chiante comme les parents, et puis on peut raconter des trucs avec elle, et puis elle dit des choses sur vos parents quand ils étaient petits, que finalement, tu comprends que, bon, elles peuvent gueuler comme ils veulent, ils sont quand même passés par le même chemin que toi. Enfin, c'est toute une valeur qui rééquilibre les grands-parents. Et donc, voilà, elle a comme socle un peu dans son existence sa grand-mère. Et puis, à un moment donné, c'est son père, surtout, lui fait comprendre que c'est pas du tout bon qu'elle fréquente autant la grand-mère et qu'à cause de ça, elle devient villageoise et qu'à cause de ça, on échappe à la modernité. Elle échappe à la modernité et que c'est mauvais, que la grande référence, c'est d'être moderne et c'est être moderne, c'est être comme les Blancs. Donc, bref, on a une petite fille pas mal secouée parce que elle était bien dans l'univers où elle était, ça se passait bien.
C'était pas son envie à elle, voilà.
Ça se passait bien, elle se sentait heureuse, confortable, aimée. Les choses étaient à leur place autour d'elle. Les choses la stabilisaient affectivement, socialement. Et puis tout à coup, tout ce monde-là est sans dessus, dessous. Et elle ne sait plus quoi penser. Et surtout, quelle va devenir sa référence? Parce qu'il n'y a plus personne qu'elle connaît dans ce pensionnat. Il n'y a que des gens et que des choses qui l'agressent, mais à quoi se raccrocher quand t'as que, voilà, t'as 10-11 ans et t'as besoin de ça, t'es trop petite pour vivre autrement, tout seul, dans ta tête.
Et du coup, il y a cette figure de sœur Astrid qui ne prend pas la place de la grand-mère, mais qui apporte quand même cette douceur et cette attention à la petite fille. Et alors, le film commence. On a l'impression de voir où le film va aller, et puis voilà, vous nous surprenez. On va pas bien sûr raconter l'histoire, mais ce qui est drôle, c'est que donc progressivement, alors qu'on part d'une situation très réaliste, peu à peu, des éléments étranges ou des sensations de la petite fille apparaissent. Rêve, réalité, mythe, vous choisissez de ne pas répondre, et c'est au spectateur de se faire sa propre histoire en quelque sorte.
Oui, mais je suis sur le dans vos dans vos, votre studio avec une amie Catherine qui est d'ici, chez qui je loge, et on a ce type de discussion. On se dit oui, effectivement, quand on entre dans l'univers et la vie d'Africain, il y a tout un côté qui a un côté plus irrationnel qui existe. Mais est-ce que l'irrationnel est irréaliste? On n'en sait rien. Hein. Mm-hmm. Je veux dire, sinon il n'y aurait pas Freud. Hein. C'est tout à fait clair. Donc là-dessus, quand il y a des choses qui paraissaient tout à fait bizarroïdes quand tu lisais Jules Verne à l'époque de Jules Verne, enregistrement de voix, il y a une voix qui parle dans la pièce alors qu'il n'y a personne qui est là. Chez lui, il est Jules Verne, et je sentais encore bien l'ambiance, que c'était un truc qui était inadmissible, impossible, et magique, etc. Et puis maintenant, bon, ben, l'enregistreur, c'est quelque chose qui est passé, voilà, dans la normalité des choses. Et il y a plein de choses qui vont de nouveau pas, qui vont continuer à l'être, et donc on ne sait pas de quoi demain sera fait par rapport à ce qui sera classé comme rationnel et irrationnel. Et donc c'est pour ça que moi, je ferme pas la porte et je donne pas des solutions toutes faites et je laisse le spectateur se faire sa propre idée.
Et justement, bon, dans cette fin ouverte, mais quand même, on sent bien un chemin parcouru. Il y a une idée quand même de résistance de cette petite fille à cette culture que l'on veut appliquer de force. Et je me demandais si vous avez senti quand même que la culture traditionnelle restait extrêmement forte. Est-ce que réellement elle n'a pas été écrasée du coup auprès de votre mère? C'est plutôt votre mère qui a, est-ce que on ne s'est pas laissé faire? Ou est-ce que vous la faites résister un peu parce que vous auriez aimé qu'il y ait de la résistance à cette culture?
Ben, écoutez, le personnage qui est là, ce n'est pas le personnage de ma mère. Hein. C'est un personnage qui est hybride entre plusieurs personnes que je connais. C'est beaucoup de moi aussi hein, dans ce personnage-là, parce que c'est moi qu'on a arraché à sa grand-mère. Je veux dire, j'ai vécu cette histoire-là à un moment donné. Ma grand-mère m'avait appris une langue qui était la langue de notre ethnie. Et puis cette langue-là, j'étais forcée de l'oublier parce que plus personne ne voulait me parler, parce qu'il ne fallait pas que je la retienne. Et donc j'ai appris à la place le français que je parlais extrêmement bien, mais j'ai évidemment un rapport très compliqué au français, parce que c'est une langue qu'on m'a fait apprendre à la place d'eux, alors qu'on aurait pu me faire apprendre les deux, et il n'y aurait pas eu de souci. Mais bon, à l'époque, c'est un peu dans la situation dans laquelle est le père de Godelieve, on se dit que c'est mieux, que plus tu t'occidentalises, et mieux ton avenir sera, alors que j'ai toute ma vie pour me prouver que effectivement, c'est pas la meilleure solution. Donc, moi, je pense que dans ces histoires-là qui sont très complexes et très difficiles, il y a une apparence des choses qui pourrait faire conclure. Et il y a une profondeur des choses qui peut faire conclure tout à fait différemment. Parce que je commence à avoir l'âge canonique de la fin de la cinquantaine et je me dis que j'ai jamais vu le monde aussi africain qu'aujourd'hui. Mais est-ce que vous vous rendez compte que toutes les petites blanches bougent leurs fesses, mais à un point où parfois elles me fatiguent? Je veux dire, on ne bougeait pas les fesses quand j'avais 12-13 ans. On regardait les Africaines en disant « Mais comment vous faites ?» Et puis là, c'est « Ah merde, je vais aller lui chercher des cours chez la Blanche qui est là, parce qu'elle bouge beaucoup mieux les fesses que moi. » Donc, histoire de résistance, là, ce n'est pas des trucs très affirmés, des slogans et des machins, mais c'est un monde qui s'africanise à un point qui est hallucinant. Donc, plus on veut l'effacer, plus il revient. Moi, je n'ai pas de soucis, je n'ai pas de problème. Vous pouvez dire « Vous avez été battu. » Moi, je dis « Mais non, il faut voir autrement les choses. » Voilà.
Je suis captivée. Je reste sans voix. On peut parler du tournage avec ces petites filles qui sont formidables de naturel. Donc la petite Godelieve et puis la petite Peste aussi. Belle distribution. Et comment vous les avez castées? Comment vous les avez trouvées?
Bon, on entre dans l'univers de l'irrationnel.
Ah bon?
Ah oui, vous vouliez de l'irrationnel, vous allez en avoir.
Je suis preneuse.
J'ai une histoire de fou avec ce film. Hein. Malheureusement, je ne peux pas dire autrement. C'est rempli de retournements de situation invraisemblables. Je veux dire, le film sur le film aurait peut-être été 10 fois plus intéressant que le film lui-même. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis là avec mon petit projet. Je vais voir des producteurs qui trouve le sujet très, très, très intéressant. Mais voilà le problème, c'est qu'un film de court-métrage, c'est un film qui n'a pas de budget. C'est un film que tu retournes avec 3,50 francs, que tu tournes dans le salon de ta mère, c'est tes copains qui travaillent dessus, personne n'est payé. Voilà, l'économie du court-métrage...
n'existe pas, quoi.
Voilà, faut savoir que t'as pas d'argent et tout le monde le sait. Alors, dès lors que tu dis que tu veux faire un court-métrage et que le court-métrage il se situe en Afrique et qu'en Afrique, il n'y a pas les techniciens que tu voudras avoir, Enfin, pas dans ce pays-là, parce qu'il y a d'autres pays où. Mais le problème en Afrique, c'est quand tu as de bons techniciens au Sénégal et que tu les veux les faire venir au Congo, ça coûte presque plus cher de les faire venir du Sénégal que de les faire venir de France ou de Belgique. Donc, ça règle rien de dire qu'il y a, il y a des techniciens en dehors du Congo qui sauraient le faire. Parce qu'au Congo, il n'y a pas une tradition aussi forte qu'au Sénégal ou au Burkina de faire des tournages. Ça ne change rien parce que de toute façon, tu paieras le même prix. Donc, résultat des courses, on a eu beaucoup d'argent pour ce qui est d'un documentaire qui serait tourné en Belgique. Mais le fait qu'il soit tourné au Congo, cet argent...
C'était rien du tout.
C'est comme si j'avais rien. Enfin, j'étais dans la merde. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai trouvé mes actrices belges déjà depuis un certain temps. Elles sont enthousiastes, elles adorent le projet, tout va bien. Mais je n'ai pas trouvé mes actrices congolaises parce que je ne vis pas au Congo, parce que faire des voyages de préparation alors qu'on a déjà...
Pas d'argent.
Ouais. Ben alors, vraiment, on a déjà... Avant même de commencer, c'était déjà la ruine, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je dis, l'argent n'arrivait pas. On attendait de l'argent qui n'arrivait pas. Et moi, je dis, mais si l'argent, il arrive la veille du tournage, parce que moi, il fallait que je tourne au moment où l'école, elle était vide. Parce que l'école, elle vit réellement, c'est une école. Mais au mois d'août, il n'y a personne. Donc au mois d'août, je peux tourner. Si je suis en retard sur mes jours, ben, j'arrive à la période où ils préparent l'école à recevoir en septembre les premiers élèves. Donc j'avais une date début du mois d'août, 10 premiers jours du mois d'août. Et si je suis en juillet ou si je suis mi-août, je peux plus tourner. Mais le problème, c'est que le fric que j'attendais pour payer le voyage de mon équipe belge, ben, arrivait pas. Alors à un moment donné, j'ai dit à mon assistant producteur, j'ai dit, écoute, moi je vais aller parce que j'ai pas mes actrices congolaises. Donc si le fric il arrive et qu'on tourne tout de suite et que je les ai même pas recrutées, ça sert à rien. Donc je pars 2 semaines à l'avance. Donc j'avais 2 semaines pour trouver les actrices, pour les faire répéter. Et donc, je pars 2 semaines à l'avance. Et lui, il attend que l'argent tombe pour pouvoir payer les billets. Et je suis là, je cherche des actrices et je trouve des filles qui... Bah évidemment, quand tu dis « cherchons actrices », tout le monde veut venir jouer. Qui jouent comme des... Mais alors, comme des bâtons, c'était artificiel, ça n'allait pas du tout. Et donc, presque au dernier moment... Et puis en même temps, il fallait que je trouve l'école, que je repeigne les murs, que je fasse les décors, que je fasse les habits. Et donc au dernier moment, plus ou moins, on me dit, tiens, il y a une actrice de théâtre congolaise qui a demandé aux enfants dans son quartier, est-ce que vous voulez apprendre à jouer de la comédie avec moi? Et elle fait ça, sans subvention, sans rien, quand elle est dans le pays, parce qu'elle fait beaucoup de tournées dans le monde. Mais quand elle a le temps, qu'elle revient, elle prend les enfants de son quartier, elle leur fait faire des petites pièces, des petits Fables de La Fontaine et tout ça. Et celle-là, peut-être que dans ses élèves, et effectivement, la nana avait formé des filles, mais ultra douées, et qui faisaient, elles avaient 10 ans, et elles faisaient ça depuis qu'elles avaient 6 ans.
Ouais.
Donc, elles étaient complètement à l'aise. Mais c'est miraculeux que je les ai trouvées, parce que personne ne savait. C'est finalement une fille, alors que j'avais vu plein d'actrices nulles, et finalement une fille qui me dit « Oui, mais je connais l'actrice Starlet Matata, et Starlet Matata, dans son quartier, elle fait ça pour se faire plaisir, elle donne des cours, parce qu'elle a dit qu'elle, on l'a formée gratuitement, donc elle doit, par reconnaissance, elle n'est pas forcée. Elle n'a pas de subvention, elle n'avait rien, elle faisait tout ça dans sa maison, dans sa cour. » Et elle l'a fait, et c'est grâce à ça que j'ai trouvé ces actrices de dernier moment. Mais j'avais si peu de temps, parce que vraiment, je les ai trouvées la veille. Je pouvais pas les faire répéter. Donc on a fait que de l'impro. J'ai dit, d'abord je racontais l'histoire niveau des enfants, et je leur ai dit, il y a une méchante, il y a une gentille. Qui veut être la méchante? Moi, tata, je suis toujours très bien quand je suis méchante. Qui veut être gentille? Bon là, il y avait 3 petites filles qui voulaient être gentilles. Ah oui, bon, tout le monde va répéter, on va voir... Bon, si tu es dans, si toi qui es la méchante, tu trouves la fille dans la chambre de la tata qui est religieuse, et puis tu vois que la fille, elle veut voler, tu es comment avec elle? Ouais, moi je fais ça comme ça. Elles ont improvisé. Vraiment, elles ont improvisé. Donc j'ai pris ce qu'elles ont improvisé en 3 jours.
C'est incroyable.
Avec ça. Et c'est avec ça qu'on a fait. Ouais. Et les gens m'ont dit, j'avais trouvé des gens en Belgique qui disaient, il faut que tu ailles là-bas 1 mois à l'avance pour faire répéter ces filles, sinon c'est raté, ton projet est raté. C'est
parce
pour ça.
Elle porte le film.
Elle porte le film. J'aurais dû répéter 1 mois avec elle. J'ai répété 3 jours et tout va bien. Irrationnel.
Alors, dernière question avant de laisser dérouler le film de chevet de Stéphanie. Alors, j'ai regardé deux fois le film. J'ai pas trouvé l'explication du titre. Pourquoi Sœur Oyo ? Parce que c'est Sœur Astrid. Et qui est Oyo ?
Sœur Astrid, c'est effectivement Sœur Oyo. Et Sœur Oyo, ça veut dire... Oyo est un démonstratif. Celle-là, cette sœur-là.
D'accord.
Et cette sœur-là a quelque chose qu'ont pas les autres sœurs et qui font que on se rend compte que des failles dans le système qui nous est proposé, le système d'occidentalisation qui nous ont proposé, existent. Que quand on nous dit, adoptez tel système, il est très bien pour vous, on se rend compte qu'à l'intérieur de ce système, les gens eux-mêmes sont pas bien. Mmh. C'est un peu comme on nous explique tout le temps... qu'il faut se développer grâce à ci, grâce à ça. Vous arrivez dans ce fameux monde développé, vous trouvez des vieux qu'on enferme dans les maisons de repos où ils crèvent comme des chiens, vous trouvez que presque toute la bouffe elle est empoisonnée et que des médicaments, c'est des systèmes où les gens se foutent que ça guérisse ou pas, on peut, ce scandale du sang contaminé et tout le reste. Vous trouvez ceci, vous trouvez cela. Eh ben, l'équivalent dans tout ça, c'est de trouver une jeune femme qui est religieuse, qui s'est vouée à Dieu, qui a déclaré qu'elle serait vierge à vie, mmh. et qui, en fait, bon, on va pas dévoiler les choses. Hein.
Il y a aussi beaucoup de sensualité, on peut dire ça comme ça.
Voilà, on peut dire ça comme
voilà.
ça.
On écoute Stéphanie, et puis si vous voulez bien, Monique, on pourra parler de ce qui vous a, le cinéma qui vous anime, que vous voyez et que vous revoyez. On écoute.
Je m'appelle Stéphanie. Et donc, je crois qu'il faut que je parle de mon rapport au cinéma. Peut-être comment je suis arrivée, je travaille dans le cinéma actuellement, dans une salle. Et c'est d'abord une cinéphilie de VHS, quoi, et avec un grand frère, 6 ans de plus que moi. Et on enregistrait notamment tous les James Bond, tous les Hitchcock qui passaient, j'ai vraiment un souvenir fort. Et la petite sœur qui vraiment essaye de s'aligner sur le grand frère et de connaître les trucs, les mêmes films, et de s'intéresser à ces films un peu de... Au début, un peu de mec, quoi, parce qu'il y avait les westerns aussi, quand même, sur France 3, enfin, sur FR3 à l'époque, et tout ça. Et donc, j'ai beaucoup vu ça. Je suis allée au cinéma un petit peu gamine, où j'ai quelques souvenirs. Des souvenirs super marquants de certains films et puis j'arrive à un film celui que j'ai choisi aujourd'hui c'est pas forcément celui dont je me souviens le mieux puisqu'il y en a d'autres peut-être j'en parlerai un jour dans une saison 2 ou 3 mais celui-là il arrive à l'adolescence à un moment où vraiment du coup il y a une indépendance qui se prend et il y a peut-être les goûts du frère, les goûts que j'avais pris comme ça dans l'enfance, assez jeune, avec ses films Hitchcock et compagnie. Je sens que c'est vraiment quelque chose qui m'appartient et qui va être un début. Il me semble que c'est un début d'ouverture vers cinéma du monde et compagnie. Et donc je me souviens clairement quand je l'ai vu. Je vous dis pas le titre tout de suite. Je me souviens d'être allée à Castres, dans le Tarn, puisque j'ai grandi à Mazamé. Et je crois que je suis allée avec ma sœur et mon beau-frère, qui, eux, ont choisi d'aller voir Les Visiteurs. Mais là, je vois Arizona Dream de Emir Kusturica. Et ça a été un vrai choc, quoi. Et alors, c'est drôle, parce que je ne l'ai pas revu beaucoup. Depuis que je... Donc, ça fait quelque temps. J'avais 16 ans. Donc, ça fait un peu plus de 30 ans. Mais il y a des images marquantes. Et puis... pourquoi je suis arrivée à voir ce film on a dû en parler beaucoup à ce moment-là. Il y a quand même Johnny Depp qui, mine de rien... je regardais 21 Jump Street, la série. J'avais vu Cry Baby de John Waters, dans lequel il joue peut-être un de ses premiers rôles un peu... à réessayer, ou en tout cas un peu plus pointu. Il avait été dans Freddy, Les Griffes de la Nuit, mais moi ça j'ai pas vu. Et donc, bon, 21 Jump Street, j'étais amoureuse de Johnny Depp, évidemment, et Crybaby, et il y avait quand même eu Edouard aux mains d'argent. Alors, je me souviens pas d'avoir vu Edouard aux mains d'argent particulièrement avant, mais du coup, là, Arizona Dream, où bah, ça a été un vrai choc de... Enfin, voilà, de rentrer dans l'univers de Kusturica que je connaissais pas. Et tout c'est, enfin, c'est un carrefour de cinéma, quoi. Alors, je l'ai revu, j'avoue, pour préparer cette parlotte avec vous, là. Et je comprends encore mieux, je comprends pourquoi l'engouement, et puis avec du recul, et maintenant que j'ai vu beaucoup plus de films, bah, je vois toutes les influences, et c'est un vrai hommage de Kusturica au cinéma américain, et pas que, mais beaucoup au cinéma américain. En fait, enfin, on plonge dans les westerns, on plonge dans, peut-être pas tout à fait le road movie, mais il y a toutes les références, donc il y a des Cadillacs dans tous les sens, puisqu'il y a un personnage qui vend des Cadillacs. Ça commence avec un hommage à Nanook, clairement, puisque, moi, bon, je sais pas, il faut peut-être que je raconte un peu le film. Y a une scène hallucinante, assez longue au début, sur la banquise. Et on suit un Inuit avec ses chiens dans la tempête. Il va mourir et il est sauvé par un chien un peu loup, en tout cas un chien errant. Il est ramené dans l'igloo avec sa femme et son gamin. La femme le réchauffe. Et en dépeçant un poisson, il y a un ballon qui va gonfler, qui donne à l'enfant. Donc est-ce que c'est les boyaux ? J'en sais rien. Enfin bref. Le gamin sort avec le ballon qui se transforme en ballon rouge. Alors, moi, j'ai jamais vu le ballon rouge, mais bon, je me dis, bon, voilà, le gamin part avec ce ballon rouge. Pendant ce temps, les parents vont faire l'amour. Et tout d'un coup, on part avec le ballon et on se retrouve à New York sur le personnage de Axel, qui est donc joué par Johnny Depp. Et son cousin, Paul, joué par Vincent Gallo. Donc là, enfin, en fait, c'est énorme, quoi. Par Vincent Gallo, vient le chercher parce que son oncle se marie dans l'Arizona. Et il traverse New York, il y a vraiment, on voit un amour de New York, de la ville. Il y a quelques images flash, un montage un peu rapide. Il se retrouve dans un bar et il y a un type qui gueule derrière. Enfin, on a toutes les ambiances un peu de Scorsese, de bruit. Et le cousin... tout de suite pose quelque chose. Paul, donc joué par Vincent Gallo, donc Vincent Gallo qui n'était pas connu, j'ai regardé un peu sa filmo, enfin, il avait fait des courts-métrages, joué dans quelques trucs, il avait joué dans Les Affranchis un tout petit rôle, je ne m'en souvenais pas, et lui, tout de suite, son cousin lui fait remarquer qu'il a un accent un peu bizarre, mais c'est quoi ton accent et tout, quoi, et il fait un accent de New York en fait, quoi, mais l'accent de Niro, bon en fait lui c'est un acteur en herbe, qui tout le long du film en fait va faire des rappels de cinéma.
Can you give me that look, Joey?
I'm missing my favorite scene here.
I'm telling you now, if I hear anything, I swear on my mother, I'm gonna kill somebody.
Well, go ahead and kill everybody.
You're a tough guy, go kill people.
Kill Vicky, kill Salvi, kill Tommy Cuomo. Kill me while you're at it. What do I care? You're killing yourself the way you eat, you fat fuck. Look at you.
What do you mean? I don't understand. What do you mean, kill you?
Me! Kill me! Start here! Kill me first! Do me a fucking favor!
Yo, wait, I meant something. You mentioned Tommy, you mentioned Salvi, you mentioned you. Include you with them. You could have said anybody, but you said you and them.
You really let this girl ruin your life. Look at you. She really did some job on you. You know how fucking nuts you are? Look what she did to you.
You fucked my wife.
What?
You fucked my wife.
This is a sick question, you're a sick bastard. I'm not that sick that I'm gonna answer it. I'm not telling you anything. I'm gonna leave. Try a little more fucking learning. You won't have troubles upstairs in your bedroom when you won't pick it out on me and everybody else.
Et il est génial, il est vraiment génial. Et donc en revoyant le film, je suis contente parce que je trouve qu'il a, bah il a pas vieilli quoi. Il est toujours aussi fort, je trouve. Et bon, donc les deux cousins s'en vont dans l'Arizona. Et là, il va rencontrer le jeune Alex joué par Johnny Depp, a rencontré deux femmes. Donc une qui a la cinquantaine, jouée par Faye Dunaway. Et là, bon, c'est encore, enfin c'est évident, c'est un fantasme de Kusturica, enfin je suppose, hein, j'ai rien lu là-dessus. Sur cette femme qui... Je pense pas qu'elle ait joué d'aussi beaux rôles depuis. Enfin, je sais pas, elle a quand même continué à faire beaucoup d'autres choses, mais en fait, elle est vraiment magnifique dans le film. Elle a un truc... Elle est hyper sensuelle, donc tout le monde fantasme sur elle. Le cousin Paul, Alex. Et alors qu'à des moments, elle est très belle. À d'autres moments, elle est un peu étrange avec ses énormes yeux. Elle a une bouche immense, pleine de dents. Et c'est assez drôle. Mais elle est... Bon, voilà. Et donc, Alex va fantasmer là, sur cette femme qui vit dans une espèce de ranch avec sa belle-fille, jouée par Lily Taylor. Un peu folle. En fait, il se retrouve, Johnny Depp, entouré de deux femmes dans leur folie. Cette jeune nana qui est héritière de son père, elle a beaucoup d'argent, elle a une mine de je sais plus quoi. Et la belle-mère, elle veut voler, son rêve c'est de voler. Et donc elle va essayer de construire des avions et Axel va l'aider. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce film ? Il y a de la magie à plein de moments. Quand Jerry Lewis meurt, l'ambulance, donc son rêve à lui, c'est de partir dans la lune à un moment donné. Enfin, il raconte une histoire. Et l'ambulance va s'envoler dans la lune. Il y a deux, trois moments comme ça, une chaise avec donc Lily Taylor qui s'envole aussi, beaucoup d'envolées comme ça, un peu magiques. Et puis il y a des séquences assez longues, folles. Donc il y a un repas notamment, une scène d'un repas qui est vraiment géniale où première fois que Alex, donc Johnny Depp, va manger chez ses femmes avec son cousin Paul qui lui aussi a une petite aventure avec Faye Dunaway au début. Bon, je tire des liens dans tous les sens, c'est pas grave. Au tout début, quand ils sont à New York, et ça évidemment je m'en souvenais pas. Johnny Depp est bourré parce que Paul justement veut qu'il soit sous pour pouvoir l'emmener dans l'Arizona, et Johnny Depp dans la voiture, et donc ils sont à Broadway, ils passent à New York et tout en voiture, on voit tous les lumières, et il se met à chanter I feel shitty, oh so shitty, et ça c'est un remake de West Side Story, I feel pretty, oh so pretty, et donc c'est bon, c'est la folie quoi. Enfin, ça m'a fait trop rire en fait en revoyant tous les petits liens. Après des fois on reproche aux réalisateurs quand ils font des références aussi grosses, mais pour moi, c'est ce réal de serbe. On va éviter d'aller dans les détails sur le fait qu'il est serbe et toutes les polémiques autour de Kusturica. Hein. Mais ce réal européen qui vient à l'assaut de l'Amérique et qui fait un hommage que moi, je trouve hyper beau. Quoi. Parce que ça se tient, c'est pas décousu. Voilà, en gros, c'est l'histoire d'un jeune qui arrive dans le rêve de deux femmes, qui se retrouve pris au milieu, qui finalement va tomber amoureuse de la jeune. Et il se retrouve pris au milieu de rêves de plusieurs personnes et ça va pas marcher, quoi. Mais bon, il va avancer, quoi. C'est-à-dire que lui, au début, c'est un pied tendre, un peu un gamin... un peu bloqué dans quelque chose et qui va découvrir la vie, bon, de façon un peu violente. Hein. Non, c'est un film qui est vraiment riche, quoi. Je me dis, mais pourquoi on le voit pas plus souvent, quoi, en plein air ? T'as vu, j'ai les larmes aux yeux en parlant.
Voilà, c'était donc Arizona Dreams, le film qui fait pleurer Stéphanie. Je peux vous demander, vous, si vous avez comme ça des films qui vous hantent, que vous revoyez ou c'est pas le cas, j'ai l'impression que ma question vous fait...
Bah écoutez, il y a tellement de films, c'est ça le problème, ouais. Hein. On choisira plus qu'un autre, en plus moi je suis très bon public, ouais. Ça peut être un navet avec des moments qui me plaisent, que je veux vous le citer. Je me rappelle qu'un jour on a fait tout un scandale parce que j'avais offert à mes enfants la série des gendarmes de Saint-Tropez. Mais on s'est amusé comme des fous tout un été à regarder ça. Et quand on m'a dit, t'as pas honte, toi qui es cinéaste d'auteur, j'ai dit, et pourquoi j'aurais honte? On a passé un bon moment. Évidemment, j'ai d'autres films que je leur ai montrés. Some Like It. Certains l'aiment chaud.
Oui.
Et c'était Billy super Wilder. Parce que c'était quand même à la fin un truc un petit peu... c'était quand même une histoire de transgenre. Ouais. Et ils étaient très jeunes, ils avaient 10, 12 ans, voilà. Ces deux hommes qui tombent, enfin, qui doivent s'avouer, qui s'aiment.
Et la fin du film, c'est pourquoi pas, ou je sais pas quoi, j'en peux plus.
Nobody's perfect.
Oui, nobody's perfect.
Parce qu'il lui dit, mais je suis un homme.
Ah oui, l'autre disait, je veux vous épouser, je vous aime, je suis folle de
mais
vous.
Mais il faut que je vous dise, je suis un homme.
Je vous avoue que je suis un homme. Et puis l'autre, il dit, nobody's perfect. Ouais. Et je me rappellerai toujours de l'éclat de rire général de tous les petits noirs qui étaient autour de moi et qui regardaient ce film avec moi et qui n'ont vu aucun souci, aucun problème. Quoi. Donc, c'est un grand moment, par exemple. Mais bon, peut-être pour vous répondre d'une façon plus précise, j'ai beaucoup aimé et j'étais touchée en écoutant Stéphanie. Stéphanie, comment, je ne sais pas.
Stéphanie, alors elle travaille au cinéma ABC et elle s'appelle Stéphanie Bousquet. Je peux donner son nom, je pense qu'elle ne m'en voudra pas. Voilà. Ouais.
Et donc, elle parlait de West Side Story. Ben, j'ai une très longue histoire d'amour avec les comédies musicales, ça je peux dire. Donc je ne vais pas en citer une particulièrement, mais je les ai toutes aimées. Des Parapluies de Cherbourg, West Side Story, les films avec Fred Astaire, Ginger Rogers, les films avec Rita Hayworth, les films avec... c'est des films... qui m'ont porté, c'était pas toujours des histoires très fortes ou intéressantes, hein. Mais moi, ce qui m'intéressait, et à la fin, à un moment donné, je me suis dit, je sais pourquoi j'étais à ce point portée par ça, c'était le côté magique. Le côté, encore une fois, pas très rationnel.
Merveilleux, ouais. Il y a du merveilleux dans la comédie musicale.
C'est que je me suis persuadée très longtemps que si j'arrivais dans des endroits et que les gens ne dansaient pas dans cet endroit, c'est que j'étais arrivée juste un peu trop tard. Qu'en fait, juste avant, ils étaient en train de danser. Ils n'étaient pas juste en train de dire « Bonjour, veux-tu un café ? Comment ça a été hier soir ?» Non, ils disaient « Hello, darling !» Et malheureusement, j'ai ouvert la porte un petit peu trop tard. L'histoire s'était déjà arrêtée. Donc, j'ai vécu dans un univers de merveilleux à cause de ces films, où ce que je voyais qui avait l'air tristounet et banal et chagrineux, en fait, ne l'était pas. Mais ça se cachait, quoi. C'est un peu comme les jouets qui font semblant de plus bouger parce que tu entres dans la chambre et qui sont sur ton lit sans bouger. Mais en fait, ils étaient en train de bien se marrer et ils te font la comédie, quoi. Et donc, ce monde de merveilleux, j'ai toujours estimé que c'était le vrai monde. C'était le vrai monde et que l'autre, celui qui était le triste monde où je vivais, c'était le faux monde. Et j'avais pas besoin de me préoccuper de ce faux monde. La preuve, il y avait les comédies musicales. Et voilà, moi je dois beaucoup aux comédies musicales. Je pense que c'est à cause d'elles que je suis quelqu'un de fou. Que je suis quelqu'un qui croit pas quand on dit c'est pas possible. Je crois pas les gens qui sont rationnels. Voilà.
Merci beaucoup, vraiment. Merci d'être venu à Cinématoque. Je rappelle que donc on peut découvrir et je recommande chaleureusement à tous nos auditeurs de venir voir Sœur Oyo qui sera présentée en ouverture d'AfriClap. C'est le 31 août à l'Espace des Diversités. Ça commence à 19h.
Et c'est à l'auditoire d'Auditorium du Sénéchal, il faut quand même le dire.
Ah oui, c'est vrai.
Auditorium du Sénéchal, partir de 19h. Il y a un film absolument magnifique, un autre court-métrage qui va être joué avec le mien qui s'appelle Kwaku Anansé, qui est de la Ghanéenne Okoswa Adomaosu, qui est une femme que j'adore. Et quand on parle des films du merveilleux, ben voilà, c'est un des films que j'aurais pu citer, c'est magique. On est dans la forêt des contes africains. Et je lui ai envie d'avoir fait ce film, hein. Honnêtement. Je trouve que, bon voilà, mon film n'est pas mal, mais le sien est extraordinaire. Et je voudrais rappeler donc qu'AfriClap se déroule du 31 août au 4 septembre, que j'ai la grande chance d'en être l'invité d'honneur, que ça, c'est la première fois que ça m'arrive, donc je le souligne d'une façon extrêmement modeste. Mais je vous en prie, il faut venir parce que c'est ce genre d'initiative qui manque un peu trop souvent pour découvrir des cinémas qui, à mon avis, apportent beaucoup si on se donne la peine de vouloir s'en approcher. Les cinémas africains.
Merci beaucoup. Cinématoque se termine et nous on se retrouve la semaine prochaine avec un autre festival, c'est Fifi Gros, dans un autre genre, mais qui donne aussi la possibilité de découvrir des films souvent inédits à Toulouse. Bon week-end et portez-vous bien.